Gemma Bovary, de Posy Simmons.
Adaptation radiophonique, Lily Stein.
Troisième épisode,
Charlie et les enfants.
Schubert a dérobé mon journal afin, prétend-il, de faire toute la lumière sur mon décès. Jusqu'ici, il a disséqué avec une délectation suspecte ma relation malheureuse avec Patrick Lodge et la manière dont Charlie Bovary, tel un preux chevalier, m'a sauvé de la grippe et du déshonneur amoureux. Sous couvert d'ethnologie littéraire, le boulanger ne serait-il pas animé d'intentions moins nobles?
Les enfants ont fini par venir chez Charlie et Gemma. Je suis sidéré du mal qu'elle s'est donné pour cette première rencontre. Séjour décoré, cheminée nettoyée, chandelle au-dessus de l'âtre. Très Dickens.
Tiny Tim se serait senti chez lui. Ça s'est bien passé, je crois. Justine, gentille, Delia moins, elle a fait toute une histoire pour un peu de bougie dans les cheveux.
On soupçonne la mère de Delia et Justine de les avoir passés à la question quand ils sont rentrés couverts de cire.
Et alors, ça s'est bien passé, ma chérie?
Ouais, c'était cool. La copine de papa est cool. Très grosse, très vieille. Elle nous a embrassés.
Elle est super freaky. On a pris deux fois le taxi, on a vu la tour de Londres.
Et la maison de papa est différente. Il faisait sombre. Ça sentait l'anniversaire, à cause de toutes les bougies.
On a dû manger à table, c'était gavant.
Oh, la mousse au chocolat était super. Il y avait 6 œufs dedans. Et il y avait 200 agendas à midi. Papa et Gemma arrêtaient pas de chuchoter. Hein?
Trois jours plus tard, Judy Bovary déposait une lettre.
Charlie, j'ai remonté le courrier. Il y a une lettre pour toi, mais elle n'est pas arrivée par la poste. C'est curieux, non?
Ah oui. Merci.
Laya Grove, mardi. Charlie, je t'écris puisque tu n'as pas pu te libérer pour la soirée famille d'hier. Ces soirées sont très importantes pour montrer notre attachement commun aux enfants. Leur bien-être devrait être ta préoccupation première. Ce qui n'est clairement pas le cas en ce moment. Je m'inquiète vraiment sur les points suivants. 1. Je croyais que nous étions d'accord. Introduction prudente et progressive d'un nouveau partenaire dans la vie des enfants. Je pense que Delia est vraiment bouleversée de savoir que quelqu'un qu'elle vient à peine de rencontrer partage ton lit. Vraiment pas malin de ta part. Dans mon cas, au moins, John a fait preuve de délicatesse là-dessus. 2. Des bougies allumées. C'est déjà assez dangereux chez toi comme ça. Tu n'as jamais réparé la rampe. Les gosses risquent de se rompre le cou en permanence. Maintenant, tu veux les incinérer. 3. Je sais que tu as les moyens de les gâter. Mais la mousse au chocolat avec autant d'œufs crus, c'est de la folie pure. Réfléchis. Salmonelle! Et tu ne rends pas service à Justine avec son problème de poids en le bourrant de glace. Je m'efforce de leur donner des fruits frais, même si c'est lourd pour mon budget. Compte tenu de ce qui précède, particulièrement le point numéro 1, je te demande de voir les enfants ici pour le moment. Tiens-t'en, s'il te plaît, à nos habitudes. Pour finir, l'argent de l'hypothèque et de la pension, quand arrivera-t-il? J'en ai marre de devoir te demander à chaque fois. Et encore plus de devoir te demander de payer par virement automatique. Si c'est ta façon de m'humilier, c'est pathétique. Judy.
Quelque chose d'important?
Non, juste une circulaire de l'école. Je l'arrangerai plus tard dans le dossier famille.
D'accord, je vais préparer le déjeuner. Je t'appelle quand c'est prêt, ok?
Ok. Mon Dieu! Là, on va commencer à faire chier. Commencer à foutre la merde entre Gemma et moi. Elle va me pourrir la vie. Elle peut pas me lâcher. Allez, bon, archivé.
oublié.
Quelle emmerdeuse, regardez-moi ça. Pourquoi je garde ça, toutes ces lettres?
Tu avais un vrai boulot d'enseignant, mais tu l'as laissé tomber. Tu n'as pas assumé, comme tu n'assumes rien. Comme tu n'as pas assumé notre mariage. Tu pourras avoir la paix, c'est ta devise. Quand les choses se compliquent, tu refuses d'y faire face. Tu te dérobes, tu fuis. Quand vas-tu te décider à chercher un vrai travail? Retaper des antiquités pour la boutique de ton frère n'est pas mon idée du travail. Tu devrais appeler ces gens que tu connais à la direction des autres écoles d'art. As-tu la moindre idée de combien coûte la bonne marche de la maison ou de ce que coûtent les enfants? Je ne devrais pas avoir à te réclamer la pension, mais j'y suis forcée parce que tu oublies systématiquement. Mon salaire ne peut pas tout régler. À toi d'assumer les suppléments. Bien à toi. Judy, tout va peut-être très bien pour toi, mais certains d'entre nous vivent dans le vrai monde, figure-toi. Je t'écris parce que c'est important et tu n'écoutes jamais. Dépenser autant d'argent pour un enfant est absolument ridicule. Tu as acheté les chaussures les moins chères que tu as pu trouver. Tu détestes dépenser de l'argent pour Justine. J'imagine que tu n'as eu aucun scrupule à mentir à la cour pour ce qui concerne l'augmentation de ma pension. Si tu crois t'en tirer comme ça, Charlie.
C'est vrai que je n'ai pas déclaré tous mes revenus. Mais elle ramasse 600 livres par mois. Et moi, un coup de pied aux couilles. C'est injuste. Salope. Marchande de culpabilité. Grosse vache. Prurite anale.
Oh, salut, Judy.
Charlie, deux choses. Un, si je n'ai pas mon chèque avant ce soir, je vais voir mon avocat. Deux, quand tu les prends à l'école, Justin va au karaté. Il y a un anniversaire chez les Pim, Tournier Road. Oui, tu le reprends à 17h15. Tu la récupères à 18h30. Il aura faim. Je rentre à 20h. Tant que tu y es, regarde la machine à laver. Elle ne fonctionne plus depuis deux
jours. D'accord, ce sera fait.
Quand Gemma n'a plus vu les enfants de Charlie que pour un bref coucou occasionnel et n'a eu à supporter de son ex-femme qu'un rare petit bonjour, son estime pour lui est montée en flèche. Sentant qu'elle trouvait les enfants ennuyeux, il les avait écartés avant qu'ils ne deviennent un problème et les voyait à présent chez leur mère.
Charlie est tellement compréhensif. Du coup, son appartement de Hackney est devenu un espace entièrement adulte, dédié à l'existence simple mais civilisée à laquelle j'ai désormais tout le temps de me consacrer. J'ai adopté le style de vie frugal de Charlie et je me suis libérée des nécessités du labeur. Maintenant, je travaille juste ce qu'il faut. Et quand je contemple mon ancienne vie faite de stress, de planning, de régime, de rouge à lèvres, d'achats compulsifs chez Harvey Nicks, je la trouve tellement triste.
Bientôt, ses derniers liens avec cette époque furent les magazines, dont elle ne pouvait se résoudre à résilier les abonnements. Charlie m'a dit que sa manie des magazines remontait à ceux qu'elle lisait enfant dans la salle d'attente de son père. C'est un magazine qui lui a inspiré sa dernière dépense avant la mise en sommeil de ses cartes de crédit.
J'ai acheté deux fauteuils Loy Loom. Un écran de cheminée rococo, des jetées de fauteuils Bloomsbury pour les sièges et une quantité de peinture pour dessiner des frises Charleston.
Comme elle l'aimait, ce petit monde délabré mais parfait, où Charlie et elle passaient la soirée après avoir dîné d'un collier de porc. Charlie avec ses mots croisés et ses anagrammes amusantes comme Charles Dickens, Children Cakes, qui veut dire les gâteaux des enfants en anglais, et Gemma, plus grosse et moins blonde, rédigeant son journal.
Je pensais ne jamais pouvoir être heureuse, mais je le suis. J'ai tout.
Quelques entrées plus tard, pourtant, quelqu'un manque. Charlie. Charlie qui ne cesse de s'absenter discrètement pour aller remplir son devoir paternel à Islington. Trop de prévenance dans ses attitudes, des airs de chien battu et de soumission aveugle quand il sort. Loin d'oublier la première famille de Charlie, Gemma en reprend conscience et s'en irrite chaque fois qu'il quitte la maison. Est-ce le poids de la parenté, l'impérieux tiraillement familial qui l'incite à resserrer ses propres liens avec Charlie? Telle est ma supposition quand je lis la question que Gemma lui a posée un soir après le départ de leurs invités.
Charlie, tu envisagerais de te remarier?
Oh bon Dieu, non. Je veux dire... Pardon, tu disais?
Whatever.
Début juillet, Gemma note dans son journal « Décidé de me marier ». En dehors d'un point d'exclamation ponctuant cette annonce, il n'y a pas d'autre indice d'enthousiasme. La cérémonie a lieu en septembre au bureau d'état civil de sa ville natale, Reading. Entre ces deux dates, elle écrit très peu. Rien en tout cas sur une demande de Charlie. Est-ce lui qui a proposé? Elle? Est-ce la conséquence d'un moment de passion? J'en doute fort.
Mon seul désir, papa, c'est que le mariage soit très discret.
Mais Gemma, je suis à la retraite maintenant. J'ai tout mon temps pour organiser quelque chose de bien.
Non, papa, vraiment. On ne veut rien de grandiose. Et puis Charlie est divorcé, donc pas de mariage à l'église.
C'est pas grave le divorce, Gemma. C'est un grand jeu pour toi. Tu dois te marier à l'église.
Michael, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. On ne peut pas la forcer.
Gemma, qu'est-ce qui t'arrive? Tu adorais les mariages. Souviens-toi de tous ces tattlers que tu lisais dans la salle de tente. Tu passais des heures à lire la rubrique mondaine. Tu adorais les grandes noces, tous les fabulas.
Ferocris, pour un jour féerique. L'environnement idéal de votre mariage. Salon de réception offert. Décoration florale. Tapis rouge à l'arrivée. Couteau à gâteau en argent. Assistance conseil tout au long du grand jour. Petit déjeuner au champagne servi dans votre suite nuptiale. Souvenir en argent gravé à votre nom.
Gemma n'a plus que mépris pour ce type de mariage. Au-delà de l'esbrouf, comme elle le qualifie, cela lui rappelle Patrick Large. Quand ils étaient ensemble, il passait sa vie à courir les soirées chics dans des cryptes sans l'inviter. Ce qui n'est pas le cas avec sa nouvelle maîtresse, Pandora Kent. Est-ce seulement le souvenir de Patrick qui a poussé Gemma à garder si discret ce moment décisif de sa vie? Moi, Joubert, je vois trois autres hypothèses. L'inertie, la peur de la déception et enfin le manque d'imagination. Elle écrit qu'elle voit mal Charlie en habit. De même qu'elle se voit mal dans les salons que propose son père, ceux de l'Occasion's Room, au décor qu'elle qualifie de fabuleusement, fabuleusement ringard. Elle se dit que ça pourrait être un pur moment de kitsch, mais qu'elle n'a pas vraiment la tête à ça.
Regarde la fille de nos amis. Elle a épousé un divorcé et elle a sorti le grand jeu. Une belle bénédiction. Une Rolls Royce Blue Windsor, une réception au country club, un superbe dîner assis, la soirée disco, tout le tremblement. Vraiment, ils font des choses très bien là-bas maintenant. Un buffet délicieux et il y a un jacuzzi double dans la chambre nuptiale, tu sais.
Papa, je t'ai dit que nous ne voulions pas de ces dépenses extravagantes.
Arrête de me parler de ce que ça va coûter. J'ai encore les moyens de t'offrir ça.
Je ne veux pas du genre de mariage que tu peux m'offrir.
Gemma, écoute, on pourrait peut-être en parler. Peut-être. Elle a raccroché. Tu comprends ça, toi, Lynn? Elle dit qu'elle ne veut pas du mariage que je peux lui offrir.
Oh, ta fille n'a vraiment pas de cœur.
Gemma a obtenu gain de cause et le mariage discret qu'elle désirait.
Quelle peau de vache, ma belle-mère! Elle n'a pas manqué de me prendre à part au restaurant pour me faire remarquer que j'étais ingrate et cruelle, que je leur avais fait beaucoup de peine à mon père et à elle et que je devais avoir honte. Charlie n'a pas réagi, mais je sais qu'il a entendu. Et 10 minutes plus tard, la voilà qui débite devant les convives des platitudes sur les crottes de chiens qui envahissent les rues, pendant que mon père radote sur la jeunesse qui n'apprend rien à l'école. Quel ennui!
Gemma est devenue une épouse. Et peu après, une femme à chien, une petite boule à franges cadeau de Charlie. Pauvre bête, cette petite chienne que mon chien et moi allions fréquenter de très près. Gemma l'a appelée Carrington, du nom d'une obscure artiste anglaise, et je me demande si ses moments les plus heureux avec Charlie n'ont pas été ceux où ils jouaient tous les deux à lui lancer des bâtons à London Fields après un déjeuner au pub. Gemma a eu des visites, comme tous les jeunes mariés. D'abord son père et sa belle-mère, très impatients de voir son nouveau foyer.
Comme prévu, j'ai eu droit à un récital de soupirs à propos de la maison de Hackney, de son délabrement, de l'absence d'équipement ménager et d'un bon emprunt logement. Ils n'ont même pas remarqué l'agencement, dépourvu d'ostentation, ni mes murs peints à la manière de Duncan Grant et Vanessa Bell.
Ce n'est pas un bon quartier pour les enfants, Gemma. Il va falloir y penser, tu sais.
Oui, papa.
Et il te faut absolument des voilages, Gemma. Ou bien tu aimes qu'on te regarde.
Non, Lynn, non.
Judy est passée le lendemain après-midi, furieuse à propos d'un chèque que Charlie ne lui a pas envoyé et que j'ai retrouvé dans la cuisine. Intarissable sur Charlie, comment il est épouvantable avec l'argent, comment il la contrôle en l'obligeant à toujours réclamer. Et est-ce que je pourrais le convaincre de payer par virement automatique, ce culot? Ensuite, elle m'a demandé ce que je pensais des familles récomposées.
Que pensez-vous des familles récomposées?
Que voulez-vous dire?
Eh bien, vous en avez une, vous savez. Tilia et Justin. Ils attendent que vous les invitiez ici.
Mon Dieu, je pensais... C'est-à-dire, je croyais que Charlie et vous aviez réglé ça. Ils les voient chez vous, non?
Oui, mais ils veulent vous connaître. Vous êtes leur belle-mère maintenant. C'est très important pour eux.
Je croyais que vous trouviez que la maison n'était pas faite pour les enfants.
Oui, c'est vrai, la maison n'est pas faite pour les enfants. Charlie ne s'est jamais occupé de cet endroit. Mais il suffit de peu de choses. Juste un peu d'organisation. Dites-lui de réparer la rampe. Bon alors, c'est arrangé. Je dirai aux gosses que vous voulez qu'ils viennent ici, d'accord? Ciao, ciao!
Justin et Delia ont commencé à venir chez Gemma et Charlie. Une nuit en milieu de semaine, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, plus trois soirs par semaine où Charlie les voyait chez eux. Cet arrangement était une décision unilatérale de Judy. Et Gemma écrit que Charlie l'a accepté comme une carpette. En fait, Charlie était ravi. Même s'il faisait souvent remarquer que « parent » est l'anagramme d'entrap, qui veut dire « piégé » en anglais, c'était un père enthousiaste. Il aimait emmener ses enfants dans l'atelier, leur montrer comment ils travaillaient, les avoir près de lui. Au point de ne faire aucune objection quand Judy a rajouté des tours de garde.
Ils sont là tout le temps. Trois week-ends que Judy a une urgence, juste pour le plaisir de foutre en l'air notre liberté. Elle demande à Delia de téléphoner et voilà, Charlie tombe systématiquement dans le panneau. Plus il paye, moins elle en fait. Ils ont des rapports tellement malsains. Judy est bizarre. Elle adore nous fourguer les gamins, mais déteste qu'ils soient avec moi. Je le vois sur sa figure. Jalouse que j'essaye d'être une maman. C'est tout l'objet de ce foutu lettre, me transformer en nounou, faire de moi sa petite boniche.
Gemma, pour l'école lundi, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Les affaires de piscine de Justin. Le short de gym de Delia. L'argent de la cantine. 5 livres. Delia, ne pas les laisser à l'entrée. La conduire jusque dans la classe. Vérifiez qu'elle a bien l'inhalateur pour son asthme. Elle reste à la maison en cas de pollution. Pas de bougies, s'il vous plaît. Asthme. Pas de poussière. Pas de chien sur le lit. Rappelez à Charlie de ne pas fumer auprès d'elle. Justin, bio amer pour les ongles rongés. Contrôlez le temps de télé, s'il vous plaît. Pareil pour les jeux vidéo. Pas de Mortal Kombat 3, ni de Killer Strike. Très important, s'il vous plaît, ne les laissez plus jamais aller seuls au parc, ni ailleurs. Londres est une ville dangereuse, surtout là où vous vivez. Avec reconnaissance, Judy.
Je sais, c'est juste en face. Mais Judy n'aime pas qu'ils sortent seuls. Je vais les accompagner, ça ne me gêne pas.
Oh, mais pour l'amour du ciel, de quoi t'as si peur? Que le marchand du journaux les enlève? Qu'il leur montre des revues porno? Mais je t'assure, elle est obsédée. Oh,
tu crois?
Mais absolument, elle les rend obsédées. Ces gamins, ils pensent que le monde entier est peuplé d'acariens et de pervers. Et ils passent leur temps enfermés à la maison, comme s'ils étaient aux arrêts. Ils sortent jamais, sauf sous escorte, c'est malsain.
Malsain?
Mais oui, comment vont-ils apprendre à être indépendants? Comment vont-ils apprendre la vie? D'ailleurs, je suis sûre qu'en ce moment, ils sont scotchés devant la télé.
Et c'est ainsi que le grand fauve marque son territoire, les autres mâles le reconnaissant aisément grâce à l'odeur de son urine. Lors de l'accouplement, la lionne se met à plat ventre et relève la croupe pour montrer qu'elle est réceptive.
Mmh.
Et le mâle s'approche, la monte littéralement de ses deux pattes antérieures ou très fréquemment de ses quatre pattes.
Mmh.
Pendant l'accouplement, il retiendra la nuque de la femelle dans sa gueule.
Fais-moi
et la
goûter ton popcorn, Justine.
Cela la garde instinctivement calme.
Bah.
Le pénis du mâle est garni de protubérances épineuses et lorsqu'il se retire, on suppose que la lionne ressent de la douleur.
Dis plutôt que tu comprends rien.
C'est pourquoi elle proteste en rugissant et se retourne fréquemment contre lui dans une posture agressive.
C'est pas avec des lions qu'on va apprendre à bien parler français.
C'est la pénétration qui déclenche la ponte des ovules. Si une lionne accepte de se reproduire, ils s'accoupleront toutes les 15 minutes et ce jusqu'à 50 fois par jour, auquel cas chaque rapport dure environ 30 secondes jusqu'à ce que l'œstru, appelé chaleur chez l'animal domestique, qui ne dure que 4 jours, soit terminé.
Au fil des jours, Gemma apparaît de plus en plus contrariée. Elle dit essayer d'être une maman pour les enfants de Charlie, mais il est clair qu'elle a du mal à les aimer.
Justin, qui crache comme un joueur d'Arsenal, dont l'haleine sent le E330, dont l'épithète préférée est tête de nœud, qui perd toujours la clé de son VTT, qui laisse derrière lui un sillage de miettes et de coca. Delia, dont Charlie a découvert avec tristesse que le nom est l'anagramme de Eld, souffrante. Delia, souffrante, asthmatique, jealous, qui me regarde par en dessous comme si elle allait me foutre un coup de boule. Justine et Delia, dont la moindre activité coûte de l'argent, implique un trajet en voiture ou nécessite des piles. Justine et Delia, qui peuvent réciter tout le nom de pizza, mais pas celui d'une seule fleur sauvage. Justine et Delia, qui sont utilisés par leur mère comme moyen de contrôler Charlie et de nous pourrir la vie. Ce week-end-là, j'en ai eu assez.
C'était Gemma Bovary de Posy Simmons, adaptation radiophonique de Lily Stein. Troisième épisode avec
Elodie Hubert,
Gemma Bovary,
Vincent Schmitt,
Raymond Joubert,
Laurent Lederer,
Charlie Bovary,
Léonie Pinjot,
Martine Joubert,
Julian Egerix,
Patrick Large,
Geoffrey Carré,
le père de Gemma,
Kate France,
la belle-mère de Gemma,
Jean-Yves Chilot,
le commentateur télé
et bien d'autres. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière.
Bruitage, Sophie Bissens.
Équipe de réalisation, Cédric Chatelus, Pierre Henry, Manon Dubus, Jean-Mathieu Zande.
Traduction, Lily Stein et Jean-Luc Fromental. Gemma Bovary est publiée aux éditions de Noël.
À demain.